Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Et c'est une entrée en matière assez macabre, forcément, pour la séquence que l'on entame ici. Pour la deuxième partie de Soundtrack, avec ces notes que tout le monde connaît, qui font réellement frissonner. Hein. C'est vrai, quand on les écoute, donc c'est le début de Tubular Bells, qu'on ne peut pas mettre en entier, évidemment, parce que là, ça va nous manger quasiment la totalité du temps qu'on a. Mais en tout cas, une séquence spéciale à l'occasion de la prochaine édition du BIF, donc le Festival International du Film Fantastique, qui va se dérouler à Bruxelles. Et on accueille Dominique pour parler de tout cela. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors évidemment, Tubular Bells, ça reste indissociable de l'Exorciste, bien sûr.
Oui, et de fait, l'album du jeune Mike Oldfield n'aurait sans doute jamais été le succès que nous connaissons, avec ses 15 millions d'albums vendus et qui restaient classés dans les charts britanniques pendant 297 semaines. Hein. Et tout ça ne serait pas arrivé si le réalisateur William Friedkin, alors à l'époque auréolé de gloire avec son film French Connection, n'avait pas choisi l'intro de ce morceau pour ajouter une tension presque narrative dans son film d'horreur sur cette histoire de possession d'une adolescente. D'ailleurs, ce que nous venons d'entendre, en fait, c'est la version 45 tours de Tubular Bells, qui fait un peu plus de 3 minutes et qui a été publiée en décembre 73 avec la mention sur la pochette « Now the original theme from The Exorcist », version à l'époque qui s'est classée dans le top 10 aux États-Unis.
Et une bande-son dans un film, c'est vrai que c'est essentiel, plus encore pour le cinéma fantastique.
Oui, si on retire la musique, ça donne pas grand-chose. Hein. Prenons par exemple Jaws. Hein. Mm-hmm. Imaginez, on a droit juste à un plan, une image d'océan, et si on retire le fameux extraordinaire de John Williams, eh bien, c'est simplement quoi ? Une jolie carte postale de bord de mer, en fait. Hein. Oui. Où on prend Halloween de Carpenter, on retire les effets de synthétiseur, ben, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Si on retire les effets synthétiseurs, on voit juste une rue de banlieue chic américaine. Non, la musique...
Et à l'instar, oui. Enfin, je veux dire, au contraire, par exemple, si on prend le Nosferatu de Murnau, il n'y a pas une musique.
Alors, il y a des silences.
C'est ça qu'il faut l'angoisse.
Mais là, c'est le jeu d'acteur et c'est l'ambiance. Ouais. Là, c'est le jeu d'acteur et c'est les ambiances un petit peu, on va dire, de lumière qui font toute la différence. Mm-hmm. Non, c'est vrai que la musique est capitale et le rock des années 70 s'est invité dans les productions des films d'horreur et du fantastique. Alors, tout commence au milieu des années 70 avec The Rocky Horror Picture Show, hein, un ovni, une comédie musicale gothique, provocante, déjantée qui transforme les codes du rock en rituel nocturne, hein, sur scène comme à l'écran. Hein, le rock devient théâtral, outrancier, presque monstrueux. Le public ne regarde plus, il participe véritablement, il vit le film comme un concert, en fait, un concert étrange et assez libéré. Film qui n'a connu d'ailleurs le succès que grâce à l'idée du distributeur qui s'était arrangé pour que le film soit projeté dans des quartiers à forte concentration d'étudiants et d'étudiantes. Et le plus souvent, le film était programmé pour la séance de minuit. Et puis, autre exemple, Phantom of the Paradise de Brian De Palma avec la bande-son très glam rock signée par Paul Williams, hein, dont les compositions ont été interprétées par les plus grandes stars, d'Elvis Presley à Diana Ross, en passant par Ray Charles ou David Bowie même. Le prog rock qui va aussi être bien présent dans les productions des films d'horreur des années 70. Par exemple, dans le classique de George Romero, Zombie, sous-titré Dawn of the Dead de 78. Là, c'est le groupe italien de Goblin qui, par ailleurs, a aussi confectionné plusieurs BO d'autres grands films par des maîtres du cinéma d'épouvante italien, entre autres de Dario Argento. Mais c'est surtout dans les années 80, avec la naissance de la culture, je dirais, VHS, hein, les films d'épouvante de science-fiction arrivent dans les foyers, que l'industrie du cinéma va faire appel à des musiciens de renom. En 84, par exemple, David Lynch, pour son adaptation de Dune, avec au casting Sting, fait appel au groupe Toto. Joe Dante, la même année pour Gremlins, demande à Peter Gabriel de lui écrire un titre. On a aussi des artistes, des grands artistes sur la BO de The Lost Boy en 87, Génération perdue en français.
Ouais, très très chouette film.
Avec une histoire de vampire, avec des adolescents, avec Kiefer Sutherland. Et alors sur la BO, on y retrouve In Excess, Roger Daltrey ou Echo and the Bunnymans, reprenant People Ask Twins, The Doors.
C'est une version que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de diffuser et qui est très fidèle à l'original.
Ouais, c'est vrai. Et on peut dire que les exemples sont assez nombreux, mais les collaborations les plus prestigieuses, c'est, je dirais, entre le maître de la littérature d'épouvante, Stephen King, et AC/DC. En fait, des deux côtés, chacun était vraiment fan du travail de l'autre. Et c'est ainsi que le groupe rencontre le romancier qui leur parle à ce moment-là d'une adaptation d'une de ses nouvelles, Poids lourd. Et il imagine, voilà, que ça va être un long métrage qui va devenir Maximum Overdrive. Alors, pour rappel, ce film, il met en quelque sorte en scène une rébellion mortelle des objets du quotidien. Même la machine à distribuer les sodas devient une tueuse sanguinaire. Bon, le film, c'est vrai, est un petit peu ridicule. C'est d'ailleurs le seul film qui a été réalisé, mis en scène par Stephen King. À l'époque, et encore maintenant aussi devenu un peu culte, ça a été un flop magistral.
Mais je crois qu'à l'époque, Stephen King aimait bien les cigarettes qui faisaient rire.
Oui, entre autres. Il buvait beaucoup aussi. Ouais. Hein. D'ailleurs, c'est souvent l'alcoolisme revient dans ses romans. Mais bon, le film n'est pas terrible. On se souvient aussi à Emilio Estevez aussi.
Absolument.
Qui jouait dedans.
C'était encore ses tout débuts d'ailleurs.
Mais juste après Breakfast Club, en fait.
Ouais,
juste après. Mais il nous reste au moins la BO avec des inédits d'AC/DC, des instrumentaux et ce titre d'AC/DC, Who Made Who.
Yeah.
Made Who pour AC/DC, donc ce morceau qui avait été écrit spécialement pour la bande originale de Maximum Overdrive. Mais dans le film, il y a d'autres morceaux d'AC/DC qu'on peut entendre.
Oui, mais qui avaient été préalablement enregistrés.
Qui étaient déjà
en fait.
Sortis, hein, tout à fait. Une petite anecdote, mais c'est assez rigolo, c'est parce que ici, dans le borinage, quand on se tape sur les doigts, ça fait « Ouh, Made Who ». Donc c'est un petit peu... Enfin bref, c'était une petite parenthèse,
oh là
voilà.
Là là là.
Alors, spécial bif, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse ce matin. Stephen King et AC/DC, donc c'est une belle collaboration, mais bon, évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres.
Ah oui, on pense aux Ramones qui signent Pet Sematary pour la BO de l'adaptation au cinéma de ce roman de Stephen King, traduit en français par Cimetière. On a aussi The Cramps pour Le Retour des Morts Vivants 85. On a Fast Away avec le guitariste de Motorhead, hein, Fast Eddie Clark. Et là, il a réalisé la BO du film Trick or Treat en 1986. Alors, si ces titres sont spécialement écrits pour la BO d'un film, parfois, par la suite, eh bien, d'autres morceaux ont été intégrés alors qu'ils n'ont pas été spécialement conçus pour. Je pense par exemple à la musique de Radiohead qui est souvent climatique, prenante, voire assez angoissante. Hein. Il est vrai que John Greenwood et Tom York sont des amateurs de ce genre de film. Le clip de leur morceau de 2016, Burn the Witch, fait directement référence avec une mise en scène de marionnettes et implicitement référence à un film qui s'appelle The Wicked Man, qui est un grand classique de 1973 avec Christopher Lee, un chef-d'œuvre qui a été d'ailleurs la source d'inspiration pour l'écriture du film Midsommar, pour ceux qui ont vu. Et puis c'est vrai que Tom York a signé la BO du remake de Suspiria, autre film culte fantastique des 70s. Enfin, il y a le morceau Everything in its Right Place, extrait de Kid A, et qui est utilisé pour faire, moi je dirais, basculer le spectateur dans un monde parallèle, bizarre, étrange, dans la scène d'ouverture de Vanilla Sky avec Tom Cruise.
Soundtrack.
Voilà, un petit peu ici aussi, hein, de Everything in its Right Place pour Radiohead. Alors, scène d'ouverture de Vanilla Sky, le cinéma fantastique et d'horreur sont à l'honneur, bien entendu, ce matin, donc à l'occasion du BIF. Rock et films d'horreur, deux cultures qui s'alimentent aussi naturellement.
Oui, et certains artistes vont même pousser encore plus loin cette esthétique. Hein. C'est le cas, par exemple, d'Alice Cooper.
Ah bah oui, ça c'est le maître
oui,
en matière.
Lui ne se contente pas de chanter, il met en scène l'horreur. Guillotine, serpent, maquillage macabre. Ses concerts ressemblent à des films d'épouvante en direct. Hein. Une influence directe sur, d'ailleurs, toute l'imagerie rock, où le choc visuel devient aussi important que le son. Alice Cooper, qui a aussi joué dans bon nombre de films du genre. Hein. Vendredi 13, chapitre 6, Le Prince des Ténèbres de Carpenter, Shocker de Wes Craven, ou encore dans le Dark Shadow de Tim Burton. Et puis, autre habitué, hein, Tom Waits, dans le Dracula de Coppola, il joue Renfield.
Renfield, hein. Oui, qui mange des mouches.
Alors, aussi, dans la bande-son de ce Dracula, il y a Annie Lennox, hein, qu'on retrouve. Tom Waits, qu'on retrouve aussi chez Jim Jarmusch dans la parodie horrifique de Dead Don't Die, avec également au casting un certain Iggy Pop, qu'on avait déjà pu voir dans The Crow, La Cité des Anges, de Tim Pope. Alors Tim Pope, c'est le grand réalisateur de clips vidéo, notamment pour The Cure. Et puis quand on pense Iggy Pop, on pense évidemment à David Bowie. Caméléon absolu, lui qui a écrit Space Oddity après avoir vu le chef-d'œuvre de Kubrick. Et puis lui, il a réussi à naviguer toujours entre rock et fantastique, avec une certaine élégance durant toute sa carrière. Hein. Depuis The Man Who Fell to Earth, en passant par Labyrinthe, dans lequel il incarne Jarrett, hein, le roi des Goblins. Sans oublier, bien sûr, The Hunger, les prédateurs en français de Tony Scott, film dans lequel il forme un couple de vampires avec Catherine Deneuve, avec cette scène d'ouverture cultissime, érotisme, esthétique des années 80, et puis la musique de Bauhaus dans ses retranchements les plus gothiques avec Bela Lugosi's Dead.
Oui, tout à fait. Bela Lugosi's Dead, et on pourrait encore rajouter d'autres artistes, je pense à Rob Zombie, hein, dont la musique évidemment est toujours très liée à l'univers des films fantastiques.
Ouais.
C'est plus alternatif. Christian Mintz aussi, de Kula Shaker, qui, on n'en parle pas, mais en général, c'est aussi un réalisateur. Il a fait plusieurs films. Il a participé au BIF aussi et présenté
des films.
Et puis,
on a aussi les Foo Fighters, qui ont carrément réalisé un film d'épouvante en signant la BO.
Ah oui, oui. Et quel morceau, hein. Donc, ça, même la vidéo, il faut s'accrocher. Hein. Voilà. Trash. Donc, on referme avec Bela Lugosi. On va pas le mettre en entier non plus, parce que c'est
9 minutes.
Voilà,
hein.
C'est quand même 9 minutes. Mais en tout cas, voilà, ça permet de recontextualiser et aussi d'annoncer cette prochaine édition du BIF, que l'on vous souhaite à toutes et tous agréable, hein, profitez-en, et comme disait le spot publicitaire dans le temps, venez. Voilà. Bon dimanche, merci Dominique,
à tout bientôt.
Voilà, Bela Lugosi's Dead, certainement le morceau le plus célèbre de Burroughs ici, hein, aussi en illustration. Donc pour cette spéciale consacrée au beef et l'affiche du dernier film qu'évoquait justement Dominique Raguet ici, hein, dans, Dead Don't Die avec Iggy Pop. Cette affiche accompagne également l'article qui évoque, hein, donc le beef ici, cette nouvelle édition qui est en cours depuis avant-hier et qui se déroulera jusqu'au 18 avril au Bruxelles Expo.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.